Je parle tout bas pour ne pas me réveiller.
Accroche-toi bien.
Ça suffit.
Dans tes rêves.
C'est impossible.
Vous êtes en retard pour le thé.
Seulement si tu crois que c'est impossible. Dans tes rêves.
Dans tes rêves, tu feuillettes les photos floues d'un album de famille, sur un cliché déchiré, un couple dans un appart rempli de bouteilles vides et de regards vagues. Au milieu de tout ce flou, une petite fille qu'on a oubliée à la sortie de l'école. On la surnomme la fille du chanteur. Sur une autre photo, la gamine, devenue jeune femme, cherche le fantôme du chanteur disparu, du père qui s'est réinventé ailleurs. Dans tes rêves, tu es le fils caché de Buster Keaton, du mime Marceau et de Pinocchio. On sait pas très bien qui est le père, mais qu'importe, l'héritage et le géniteur, tu assures le show. Tu fais rire et pleurer sans jamais mettre un seul mot. Tu mimes des silences qui en disent long dans ce monde trop bavard et criard qui parle souvent pour ne rien dire. Dans tes rêves, il y a le pays de ton enfance et celui de l'utopie. Il n'y a pas de morale à la fin, tout est possible. Tu deviens un super héros de la vraie vie. Alors si on écoutait un peu plus ce fameux rêveur qui sommeille en nous.
Dans tes rêves,
France Inter,
Laurence Garcia.
Et pour cette rêve partie, une rencontre d'imaginaire dont je me suis inspirée, mon premier est écrivain, scénariste, conteur de fiction familiale, bizarre de préférence, inspiré de la vraie vie ou pas. Chanson de la ville silencieuse, c'est son dernier roman musical chez Flammarion. Bonjour, bonsoir Olivier Adam.
Bonsoir.
J'ai fait un petit clin d'œil dans mes rêves à votre fille de chanteur, oui. Votre narratrice héroïne de votre dernier roman à la recherche de son papa. Dans vos vrais rêves éveillés ou nocturnes, vous les entendez, vous les voyez, vos personnages imaginaires?
Ouais, ils arrivent dans un état de semi-conscience, je pense, qui confine aux rêves. Ce qu'on appelle l'inspiration, c'est quelque chose c'est un état dans lequel on se met pour laisser venir à nous des voix, des silhouettes. Et c'est un état un peu d'errance mentale, enfin dans mon cas en tout cas. Et ça ressemble, alors je dirais pas au rêve, mais à la rêverie, quoi. Voilà, je suis en état de rêverie permanente entre deux livres. Et puis après, il s'agit de capturer ces bouts de rêverie et de les transformer en objets physiques.
Auteur errant. Mon second est sculpteur d'imaginaire, acteur, clown, poète, bruiteur, un clown sans nez rouge, un mime sans masque blanc, un show en solo et sans mots, c'est à l'affiche du théâtre des Mathurins en ce moment à Paris, ça s'appelle Imagine-toi, ce qui lui a valu d'ailleurs le Molière 2007 de la révélation masculine. Bonjour, bonsoir Julien Cottereau.
Bonsoir Laurent.
Des rêves muets, vous? Vous faites des rêves muets où il y a des voix, ou c'est essentiellement des sons, des bruitages dans votre imaginaire à vous?
Je me rappelle jamais de mes rêves. Je dors comme un bébé chaque nuit. Je dors sur les livres souvent. Je m'endors avec les mots. Et je pense ma vie. Je marche, je chemine comme dans un rêve. En fait, c'est vraiment mon chemin à moi. C'est d'arriver à ce que chaque petit pas que je fais dans la journée me ramène à moi-même et à l'émerveillement que j'ai de vivre entouré de personnes que j'aime. Même que je ne connais pas.
L'autre, cet ami inconnu.
L'autre avec qui je joue tous les soirs, en fait, sur scène.
Ouais.
Et j'ai comme un devoir, c'est d'aimer les gens, de vouloir jouer avec eux. Et pour jouer avec eux, on a envie de... Voilà, il faut les aimer d'abord.
Alors, c'est votre première rencontre dans la vraie vie. On va voir si vous aimez ou pas à la fin, d'ailleurs. L'un joue avec l'imaginaire des mots, souvent imagé. Vous, Olivier Adam, vous, des silences, des mimes, de la gestuelle, des corps qui, parfois, en disent long. C'est quelque part une boîte à outils ou un masque pour magnifier un réel, en réinventer un autre, mettre de la poétique ou du romanesque dans le réel?
Ouais. Dans mon cas, il y a quelque chose aussi qui est lié au silence, d'une certaine manière. C'est-à-dire que d'abord, l'écriture se fait dans le silence. La lecture elle-même se fait dans le silence. Elle est au retour sur soi et en soi. Et puis aussi, j'ai l'impression, peut-être plus d'ailleurs avec ce dernier livre que d'autres, qu'il y a aussi une volonté de faire taire un peu le fracas du monde et le bruit, le bavardage, et le vacarme incessant, et de prendre le temps de se taire et d'aller au cœur des mots pour en trouver un peu de beauté et de vérité, alors qu'on est dans une époque et un monde de la trépidation permanente.
Je le dis toujours,
les gens qui parlent dans mes livres, c'est il y avait cette phrase de Léo Ferré, qui est pas exacte, hein, mais qui dit à peu près, les gens, il faudrait les connaître qu'aux heures avancées de la nuit, quand ils sont plus seulement occupés que par des problèmes d'âme et de mélancolie, quoi.
Ouais.
Pour moi, c'est ça le lieu des livres, c'est-à-dire des romans. C'est cet endroit au milieu de la nuit où on est seul, nu face à la glace, et on n'est plus seulement occupé par des problèmes d'âme et de mélancolie.
Ouais, sans les masques imposés, forcément, quoi.
Oui, et puis sans les faux-semblants du langage social et des relations sociales et des conventions et des clichés et des raccourcis aussi. Il y a aussi une grande question de temps, hein. Le temps qu'on prend pour poser les mots, le temps qu'on prend pour les lire parce qu'on parle trop vite et trop.
C'est ça. Bon, on va ralentir le débit ce soir. Imagine-toi, le titre est beau, en plus va très bien avec notre émission, redevenir aussi un petit peu auteur de son récit, et ça s'adresse pas forcément qu'aux gamins. Imagine-toi, c'est aussi de... Justement, se recentrer sur son imaginaire et laisser parfois de côté le rationnel, le factuel, tous ces mots-là, les mots qu'aime pas forcément d'ailleurs Olivier Adam. Moi, je suis assez stupéfaite de voir comment les adultes qui sont dans la salle à vous regarder jouent le jeu de cette cour de récré imaginaire, de dire, bon allez, tiens, là, justement, on enlève notre masque de grand et on se laisse aller à mimer, à imaginer, à être dans la poésie.
Ouais, en fait, c'est une autre façon de voir les spectacles. En fait, c'est l'art de la devinette. On est tout le temps à se dire qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il signifie. Donc, on est tout le temps, on ramène vraiment à l'os, au squelette, en fait, du sens narratif. Donc, qu'est-ce qu'il fait là? Ah oui, on reconnaît ce qu'il fait là, puis on reconnaît ce qu'il fait ici. Et on est avec un enfant qui va reconnaître peut-être même plus rapidement des choses.
Qu'un adulte, hein?
Qu'un adulte. Donc, on est là, on travaille avec notre enfance et notre façon de voir différemment les choses. Ouais. C'est assez chouette, le mime, hein. C'est quand même, c'est un art ancestral et c'est un art de la fulgurance, forcément, un art scénique. Et qui ramène à recycler le vide. Et toujours faire appel au croquis. On finit le croquis, on met les couleurs en tant que spectateur.
On reparlera de cet imaginaire de l'enfance, mais justement la figure du mime ou du clown, Olivier Adam, ça peut à la fois intriguer, ça peut attirer, ça peut effrayer aussi. Vous vous positionnez comment
Le clown traditionnel du cirque, moi ça me faisait des frayeurs d'enfant.
C'est ça.
Mais là on est dans le théâtre, quoi, et on est dans un truc qui est universel, dont on est tous assoiffés, c'est des histoires, de nous raconter... des histoires, et on a tous la fiction, le théâtre, le roman, le cinéma, et là, parce qu'on est tous assoiffés de voir d'autres vies que la nôtre.
La musique décor de deux corps, voilà pour la partie onirique ce soir jusqu'à minuit. Vous aussi, vous pouvez poster vos songes et vos utopies sur notre page à nous de Facebook dans tes rêves, la rêve partie anti-blues du dimanche soir ce soir avec, comme d'habitude, le gang des rêveuses, Marie-Hélène Fauquier, la réalisation, Nadia Chougui à la préparation, Muriel Pérez pour la programmation et ce soir à la technique, Antoine Théboulouyer. Nous aussi en radio, on fait des signes.
It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. It's all the same.
C'est The Velvet Underground sur France Inter et ce soir nous explorons les rêves et les rêveries de l'écrivain Olivier Adam et de l'acteur mime Julien Cottreau.
Dans tes rêves.
J'ai toujours rêvé d'être un gangster.
Casey joins the hollow sound of silent people.
Laurence Garcia.
Et avec nos deux invités ce soir, comme à chaque fois messieurs, nous réexplorons l'imaginaire de l'enfance qui explique aussi qui l'on devient. Je vais commencer par vous, Olivier Adam, cette matière romanesque hein, qui est l'enfance et la famille qui inspire vos fictions. Vous êtes né à Paris mais grandi en banlieue dans l'Essonne. Et vous dites avoir eu longtemps des souvenirs assez flous de cette partie de l'enfance justement.
Oui, oui, l'espèce de trou de mémoire originel. Et en même temps, j'ai un rapport très fort à la nostalgie et un rapport du coup qui est assez étrange parce que c'est comme être nostalgique de quelque chose dont on se souvient pas vraiment. Alors il y a une espèce de texture qui correspond à une enfance heureuse, hein, mais dont je n'ai que des photos dans les albums pour vraiment me la figurer réellement.
Il y a besoin des photos et des images, encore une fois, pour...
Oui. Et maintenant, ça se confond. C'est-à-dire que mes souvenirs d'enfance sont des photos, de cette manière. Des vacances avec mon grand frère, sur la terrasse de la maison, des jeux avec des raquettes. Donc, j'en suis arrivé, finalement, à devoir imaginer l'enfant que j'étais.
Ouais.
Après, disons vers 10-11 ans, les choses commencent à être plus claires et là, du coup, un peu plus noyé dans quelque chose qui avait plus à voir avec la préadolescence ou l'adolescence, où là j'étais un peu, disons, déjà mélancolique et pas forcément très très sur mes deux jambes, quoi, un peu évaporé, je dirais. Donc tout ça a fait une espèce de texture qui a fait qu'à un moment donné, quand j'ai commencé à écrire, j'ai eu vraiment l'impression de reprendre possession de quelque chose, vraiment, de ma voix, de mon regard.
Redevenir auteur, le fameux...
Et c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps dans mes livres à me réinventer en me donnant une quinzaine de masques successifs. Et il y a beaucoup de pages qui sont liées à l'enfance et à l'adolescence, à la fois où j'essaye de saisir des choses vagues dont je me souviens pour essayer de les coller au mur une fois pour toutes, et parfois de boucher les trous.
Boucher les fameux trous, le puzzle. Mmh. Vous l'avez raconté aussi dans des livres, à travers peut-être d'autres masques aussi. Il y a la banlieue, oui. Il y a la classe moyenne dont vous venez. Deux zones quelque part, on parlait de flou, deux zones qui sont un peu floues aussi, il faut trouver sa place là-dedans, comment se trouver des attaches là-dedans.
Oui, je l'ai un peu même vaguement théorisé dans les lisières, l'idée de faire partie d'une France dite périphérique et en même temps majoritaire. Il y a toujours cette espèce de tension entre le fait d'être dans le cœur même massif et souvent assez silencieux et souvent assez peu représenté ou ayant assez peu voix au chapitre du pays et en même temps d'avoir le sentiment d'être un peu à côté de ce qui se passe. Et je pense que ça structure un petit peu notre rapport au monde. D'ailleurs, là, ça fait pas très longtemps que je revis à Paris, mais c'est vrai que j'ai grandi en banlieue, j'ai passé beaucoup de temps à vivre tout au bord de la mer et tout au bord de pays
à Saint-Malo aussi,
en Bretagne. Ouais. Voilà, et je pense que c'est quelque part... ma place, et d'une certaine manière, je pense que c'est la place de l'auteur que je suis aussi. C'est-à-dire quelqu'un qui, certes, vit sa vie, mais est toujours... c'est la marche du cavalier, c'est-à-dire aux échecs, quoi. Il y a juste, on avance, mais on fait aussi juste un pas de côté.
C'est ça.
Et c'est ce qui, sans doute, peut-être, permet de poser un regard sur les choses derrière les choses cachées derrière, disons.
Oula. Alors peut-être que dans la chambre d'imaginaire de ce jeune ado qui se cherchait ou qui s'est trouvé, Olivier Adam, vous écoutiez peut-être ça.
Je marche seul dans les rues qui se donnent et la nuit me pardonne, je marche seul en oubliant les heures.
Goldman, forcément, une musique de la solitude qui vous causait à l'époque
Alors c'est... C'était assez drôle parce que par ailleurs j'écoutais de la musique classique parce que j'étais au conservatoire et puis j'écoutais aussi des choses. Il y avait un disque de Gérard Manset qui traînait à la maison, et puis il y avait Brel, Barbara et tout ça. Mais et du coup j'avais des goûts assez anachroniques. Et quand Goldman est arrivé, je crois qu'il y avait sans doute le goût de ce que ça racontait, mais il y avait aussi le sentiment, pour une fois, d'appartenir à une petite communauté, enfin une grosse communauté, parce que c'était la Goldman Mania, et qui dépassait la musique. Aujourd'hui, évidemment, pas évidemment, parce que je veux pas dire du mal de Jean-Yves Goldman, faut pas, mais c'est très loin de mon univers général et, et des choses que j'aime, mais ça a été, j'avais un poster de lui au-dessus de mon lit, hein. C'était vraiment, j'avais tous ses disques, et mais c'était quelque chose que je pouvais partager avec les autres, je pouvais parler avec d'autres copains de Goldman, parce que sinon mes histoires de musique classique ou de vieux chanteurs
je me sentais légèrement seul pour
voilà
le coup.
Et comme j'étais déjà légèrement asocial ça me rattachait aussi.
Et alors peut-être parmi les posters, il y avait aussi lui. Et là quoi, Olivier Adam est dans le fantasme du dandy aussi, le dandy qui brouille justement les masques oui, sociaux, les appartenances.
C'est sûr que là on arrive dans une enfance tout à fait heureuse, banale, et mais aussi conventionnelle. Il y a la pochette de ce disque déjà. Quoi. Il est torse nu, il est beau comme un dieu, il est maquillé, c'est sulfureux, c'est physique, c'est ambigu. Et donc là, il y a d'un coup l'ouverture vers un imaginaire. Alors là, c'est vraiment très opposé à Goldman pour le coup. C'est un imaginaire de la transgression, et je pense que c'est une porte vers quelque chose de ce que peut être l'art, quoi, très profondément. Et puis c'est aussi d'un coup l'ouverture vers un autre pan de la musique qui m'a plus formé, parce qu'on va écouter Lou Reed et Velvet Underground, et qu'il y a Étienne Daho qui arrive de l'autre côté, et puis Leonard Cohen, et puis Jean-Louis Murat plus tard, et là on est dans un trajet
des univers pas différent. Du tout sombres, hein, d'ailleurs. Hein.
Oui, mais la chanson gay,
ça vous
saoule. Vous en connaissez Je sais pas, non, c'est pas... Ouais, toujours une disposition à la mélancolie... avec laquelle moi j'essaie de m'interroger là-dessus.
Voilà, maintenant c'est bon.
C'est comme ça, et voilà. On fait avec. ça produit des livres.
Bien sûr.
C'est tout ce qui compte.
Autre décor d'enfance avec vous, Julien Cottreau, vous êtes né du côté du Mans. Quelque part, j'ai lu que vous dites être né clown. C'est le personnage qui vous a choisi, c'est pas vous qui l'avez choisi.
Oui, alors. Non, mais en fait, j'ai toujours suivi les gens en fait, qui me parlaient de moi. En fait, effectivement, comme Olivier, j'ai eu du mal à mettre en fait des images animées en scène dans les souvenirs. Et petit à petit, à mesure qu'en fait j'ai fait ce métier, m'est revenu en fait cette vitalité que j'avais petit, à vouloir me déguiser, à vouloir faire rire et à vouloir danser. En fait, c'est par la danse tout petit.
Mais déjà par le corps, en fait.
Par le corps, la danse, mais la danse drôle.
Je dansais drôle.
Oui, je dansais drôle. En fait, j'avais des couches comme parachute. Et je marchais à peine, mais je dansais déjà. Et c'était l'expression que j'avais quand je dansais, qui faisait rire les gens, et les gens étaient autour de moi. Et en parlaient après, et notamment ma famille me disait, mais c'était incroyable, on aurait dit un petit clown. C'était simplement l'expression en fait de mon visage, le plaisir que j'avais, le plaisir incommensurable.
C'est-à-dire, vous avez, franchement, moi quand je vous regarde, Julien Cottreau, vous aviez vraiment une tête d'enfant, quoi, en fait.
Oui.
Non, mais c'est vrai, oui, en tant qu'adulte, vous l'avez gardé, cette tête, non?
Oui, exactement, mais ça vient, à mon avis, l'enfance vient, enfin, je veux dire, la tête d'enfant vient avec le plaisir de vivre. Je pense que quand on a envie d'être joyeux, on a envie de faire rire, on a envie de rigoler soi-même, je pense qu'il y a quelque chose qui, dans les yeux, tout d'un coup, irradie le visage entier.
Les mélancoliques n'ont pas de tête d'enfant, alors, Olivier Adam.
Alors, la mélancolie, oui, la mélancolie, j'ai une chape de mélancolie sur moi, j'ai un habit mélancolique, mais vient se dégager tout le temps cette volonté de rire et de faire rire les gens, et d'être joyeux. Et c'est vraiment quelque chose que j'apprends avec ce métier, j'apprends l'humour, j'apprends la santé optimale, comme disait Nietzsche, l'humour, quoi.
Ça se travaille quand même. Hein.
Exactement. J'avais pas beaucoup d'humour, moi, j'avais pas l'impression d'être très humoristique en tant que teenager, enfin... adolescent. Vraiment. C'est avec le métier qui me...
Alors, des parents instits, on parlait de la France moyenne, la France majoritaire, parfois trop invisible avec Olivier Adam. Mm-hmm. Et c'est vrai que vous observiez vos grands-parents qui travaillaient dans une charcuterie, c'est ça? La gestuelle en arrive au corps. Le goût du mime, vous êtes venu de ce spectacle-là, de ce théâtre-là aussi, de la vie?
Tout à fait. Mais c'est quelque chose de... Il y a une conjonction de choses psychologiques, je pense aussi, qui faisait que mon grand-père était mon Superman. Il se levait à 5h du matin, il avait des gros muscles, des grands couteaux, la clope au bec, tout le temps être dans l'action, et un cœur énorme. Et j'étais déraciné, mes parents ont divorcé quand j'avais 2 ans, donc j'ai quelqu'un qui tout de suite a été seul, très très de manière conjoncturelle. Donc j'ai joué seul très très vite. Et puis j'étais déraciné en fait. Tout d'un coup, il y a un fruit tombe d'un arbre qui est mort. Et ce fruit, c'est l'amour de deux êtres qui donnent un être. Et cet être-là n'a plus en fait. Je recevais énormément d'amour. Sauf que l'amour qui naît de quelque chose de mystérieux, et d'aventureux, on pourrait dire l'amour des parents qu'on regarde, qu'on assiste, à cet amour-là. Ben, il était loin, quoi. Donc, il y avait mes grands-parents qui étaient encore ensemble, ils travaillaient ensemble. Donc, il y avait cette proximité de l'amour conjugal. Et puis, l'organisation aussi du travail autour de cet amour qui m'a fasciné, que j'ai essayé de reproduire, que je reproduis d'ailleurs aujourd'hui avec mon épouse, avec qui je travaille. Et je veux surtout pas déraciner mes enfants, justement, de cet amour.
De couple partenaire. En parlant de déclaration d'amour, écoutez cette voix-là.
Ce sont les rêves qui m'envoient. Les gens qui sont dans nos rêves la nuit, il faudrait toujours les appeler le matin au réveil. La vie serait plus simple. Allô, j'ai rêvé de toi. L'amour m'a réveillée. Tu me regardes. Mais moi, toi, je t'imaginais tout à fait comme t'es là, trait pour trait. Et tes yeux dans mes rêves, ils brillaient comme ils brillent là. Et on courait tous les deux à travers des villes. Des vallées, des plaines, avec des beaux de 7 lieues.
Vous l'avez reconnu, Juliette Binoche, avec un gros regard là, gourmand de Julien Cotreau dans Les Amants du Pont Neuf. Vous étiez raide dingue amoureux d'elle.
Raide dingue amoureux.
Un fantasme.
Non, c'est pas raide dingue, c'est tous les choix qu'elle faisait. C'était une transcendance. En tant que spectateur, je voyais l'innocence. Et je voyais une force énorme dans les choix qu'elle imposait au monde. Des larmes qui pesaient 500 kilos, des regards où je pouvais nager. Et je sortais des films et tout était au ralenti. J'étais amoureux, transi, des choix qu'elle faisait. Et elle les donnait au monde, donc je les recevais. J'étais dépositaire, en fait, de ses choix. Et c'était magnifique, sublime.
Et c'est vrai qu'à l'école de la rue Blanche, vous êtes formé, et votre prof de mime, c'était son père, Jean-Marie Binoche. Vous avez tout fait pour épater le père, bosser comme un dingue là encore, en se disant, on sait jamais.
Déjà, j'ai vu le géniteur, en fait, de quelqu'un qui transcendait mes rêves, je sais pas. Donc, en fait, en voyant le papa qui était aussi professeur de clown et de masque, et moi-même, j'avais cette disposition, en moi. Donc voilà, il y a eu quelque chose de fulgurant qui s'est produit. J'ai le premier cours, je fermais les yeux pour mieux l'entendre. Il m'a dit, jeune homme, vous fermez les yeux à mes cours. Je dis, mais c'est pour mieux vous écouter, pour mieux vous entendre, monsieur. Enfin, c'était pas possible, quoi. Et il m'a mis, lui, en relation avec le Cirque du Soleil au Japon en 94, et donc très très loin de sa fille. Et c'est comme ça que j'ai remplacé un clown mime bruiteur.
C'est ça.
Et c'est comme ça que je suis devenu ce que je suis là.
Grâce quelque part aussi à l'étoile de Juliette.
Oui.
Tu seras viril, mon kid. Je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril, mon kid. Je ne veux voir aucune once féminine, ni les airs, ni des gestes qui veulent dire. Et je sais si ce sont tout de même les pires à venir te castrer pour quelques vocalistes. Tu seras viril, mon kid. Loin de toi, c'est fini. Finesse tactique de ces femmes d'origine qui féminisent, groguisent sous prétexte d'être le messie fidèle de ce fier modèle archaïque. Tu seras viril, mon kid, tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon. Et comme tous les garçons, tu courras de ballon en champion et deviendras mon petit héros historique.
Virilité abusive. Virilité abusive.
Tu seras viril, mon kid. Je veux voir ton tympan se noircir de bagarre et forger ton mental pour qu'aucune de ces dames te dirige vers de contrées roses néfastes pour de glorieux gaillards. Tu seras viril, mon kid. Tu hisseras ta puissance masculine pour contrer cette essence sensible que ta mère nous balance en famille. Elle fatigue ton invulnérable Achille. Tu seras viril, mon kid, tu compteras tes billets d'abondance qui fleurissent sous tes pieds, que tu ne croiseras jamais. Tu cracheras sans manière, en tous sens, des fils à terre et dopé de chair de nerfs protéines. Et tu seras viril, mon kid, tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta rude étincelle. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent.
Il s'appelle Eddie Depreto et ce soir nous parlons rêve, imaginaire, utopie avec l'écrivain Olivier Adam et l'acteur Julien Cottreau.
To be or not to be.
Dans tes rêves.
That is the question.
Laurence Garcia.
L'un joue un show sans mots avec plein de gestes qui s'appelle Imagine-toi. L'autre a écrit Chanson de la ville silencieuse. Derrière le roman justement Olivier Adam, et pour reprendre l'intitulé de votre spectacle Imagine-toi, il y a tout le fantasme aussi derrière la fiction de s'imaginer une autre vie ailleurs, de disparaître, de se retirer du monde, quitte à bricoler une fausse mort, une fausse disparition. Enfin, on ne va pas tout raconter. C'est un fantasme que connaît l'auteur. D'autant plus en cette période de géolocalisation, le droit à l'oubli semble une utopie. Voilà, disparaître pour se réinventer loin, quitte à se retirer, quitte à couper les ponts.
Oui, c'est à la rencontre de deux versions de la disparition. Il y a une version, qui a plus à voir avec le deuil ou avec la. Voilà, c'est pour ça que beaucoup de mes livres tournent autour de ça, parce que je pense que ce qu'on fait de nos fantômes. La douleur ou la peur ou de la perte des êtres chers, qu'elle soit avérée, qu'elle soit hypothétique, voilà, ça c'est le matériau premier d'une bonne partie de mes livres. Et puis après il y a une disposition personnelle, un imaginaire très peuplé par l'idée de la fuite, ou par le dépouillement de soi ou la disparition ou la tangente. Alors ça vient sûrement d'une disposition psychologique, puis ça vient aussi à un moment donné, on se forme aussi avec les livres qu'on lit, les films qu'on voit, les spectacles qu'on voit, et ça cristallise comme ça une espèce d'imaginaire quand même gouverné par cette idée-là du retrait.
Évaporer, errer, c'est quand même des mots qui reviennent souvent dans votre bouche. Julien Cottreau, ça vous travaille, ça, cette histoire de... En même temps, le personnage du clown, même si vous n'êtes pas un clown traditionnel, vous êtes un acteur, un mime, il est universel, il est intemporel, il n'a pas de masque social. Donc, s'inventer un autre soi ailleurs, finalement, c'est votre personnage.
Ah oui, oui. C'est le lieu de cette réinvention, c'est le théâtre. C'est la scène. J'invoque en fait mon personnage qui va réfléchir d'une manière qui ne va pas avoir de filtre en fait, hein, qui est directement lié en fait à ses impulsions, mais il y a toujours cette, ce cerveau-là, qui est le mien, qui va du côté de la tendresse, de l'enfance, de l'anarchie, qui va du côté de
l'anarchie.
De l'anarchie, oui, de l'anarchie. On bouscule les étiquettes, les conventions, on pourrait dire, comportementales.
C'est marrant parce qu'à un moment donné, ce personnage que vous jouez, avec son corps, avec ses, il siffle l'international, hein, ce qui a dû échapper complètement à, au public des gamins. Mais je peux vous dire que dans la salle, les adultes, ça ne leur a pas échappé.
Oui, oui, ça les fait rire.
Pourquoi ? Ouais,
parce qu'en fait, on se demande d'ailleurs si mon personnage ne sait que l'international, donc il ne siffle que l'air qui lui tient à cœur, ou si c'est l'ogre. Donc en fait, il y a un ogre qui
imaginaire.
Fait un ogre qui est derrière le rideau de fond, qui fait une sieste. Il faut pas le réveiller pendant tout le spectacle. Et cet ogre est vraiment, je suis sous son joug. Et donc à mon avis, il se réveille parce que je fais trop de bruit. Les gens rigolent trop, je sais pas. Et je le rendors par l'international. Donc est-ce que c'est lui,
est-ce que
c'est lui qui connaît,
oui.
Est-ce que c'est lui qui est vraiment sensible à l'international, ou si c'est moi qui ne connais que l'international. Moi, c'est, voilà, c'est,
et là, vous semez le doute et les questionnements.
Oui, alors l'international, effectivement, si je peux moi tout de suite amener du sens en fait, hein, dans quelque chose, dans un sens. Mes parents mon père était maoïste. Ma mère a toujours été de gauche. Et pour moi, c'est très très important d'être très très proche des gens qui n'ont pas beaucoup de choses. Qui n'ont pas. Voilà. C'est ma force à moi, en tant que clown, mon fuel. D'essayer de tirer, en fait, le rire de n'importe qui, en fait, et de mettre l'un à côté de l'autre, un patron et puis un ouvrier. Manutentionnaire d'un côté, patron du CAC 40 de l'autre. Et en fait, il rigole aux mêmes choses, puisqu'il essaie de savoir qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que c'est quoi cette devinette, etc. Et il rigole par des choses très, très mécaniques. Donc, ça, j'ai envie de cette internationale, en fait, des spectateurs. Hein, du voilà.
Belle utopie.
C'est précieux. Ouais. Je sens que c'est précieux. On peut être frère et sœur d'émotion. Sans connaître l'autre, d'un coup, on va libérer une intimité énorme par le rire. D'un coup, moi, par les rires, je sais qui c'est. Je vois par un rire particulier, je peux déjà, comme si en fait, on m'amenait en fait des cellules de l'électricité, de l'information, qui tout de suite va cristalliser en fait pour moi des schémas plus ou moins sympathiques,
hein, ouais.
Vers lequel des fois je vais. J'ai reconnu un rire dans le fond de la salle. Où je vais vers ce rire-là pour jouer physiquement avec la personne.
Je sais pas quel type de rire vous avez, vous, Olivier Adam, juste pour l'analyser d'un point de vue psychologique ou pas. Mais j'imagine que les mots de Julien Cottreau résonnent chez vous. Aussi, l'auteur, l'écrivain l'a souvent dit. Moi, je raconte des histoires auteurs d'hommes. J'aime écrire sur ceux qui subissent l'histoire, qui n'ont pas forcément toujours la bonne carapace pour résister, qui ont perdu parfois leur rêve de meilleur. Voilà, une dimension aussi collective. À travers des destins individuels aussi.
Oui, oui, bien sûr, il y a l'idée de rendre justice un peu à une, ce qu'on disait tout à l'heure, une France à la fois majoritaire et bizarrement oubliée, puis l'idée de rectifier aussi.
C'est-à-dire rectifier.
C'est ça qui me semble toujours que quand on n'en parle pas, on en parle mal, et que d'une certaine manière, il faut poser un regard qui n'est pas un regard d'au-dessus, un regard de juge, ni un regard compassionnel, dégoulinant, et que il faut trouver cette espèce d'endroit où on n'écrit pas. Je pense toujours à Raymond Carver, et je me disais toujours, Carver, quand il est dans un bar, dans une nouvelle, et qu'il nous décrit le pompiste qui vient de se faire larguer, et qui se confie au barman, qui est lui-même dans la dèche, ou je sais pas quoi, il est pas celui qui écrit d'au-dessus, et qui croque les aléas de ces pauvres humains empêtrés dans leurs problèmes, et tout ça. Il est le mec à côté qui descend une bière et qui est pas plus avancé qu'eux. Et donc, c'est un regard de fraternité qui doit dominer, il me semble, pour essayer de dire quelque chose de la vérité des vies que nous vivons et que vivent le plus grand nombre, quoi.
Frères et sœurs d'émotion, comme disait tout à l'heure Julien Cottreau. De toute façon, le personnage du clown aussi, il est à hauteur, il est hauteur d'homme, même s'il est parfois absurde, même s'il tombe, même s'il chute, même si
Il est auteur d'homme, il est même auteur du claudiquement de l'homme, de l'handicap, de l'échec, du problème. on fait du problème quelque chose de vital par le rire, en fait. Le problème est la pépite, d'ailleurs, de l'apprentissage, celle qui le petit grain de sable qui va faire, quelque chose doit être compris, en fait. Si on s'y attarde un petit peu, on va comprendre des choses sur nous-mêmes, sur les gens qui nous entourent. Le problème est une pépite. Vraiment. Un handicap, c'est une pépite pour le clown, forcément. L'échec. La science de l'échec, c'est la science du clown.
Ouais.
C'est la science aussi de l'enfance. C'est la science de la liberté, comme disait Joseph Beuys. On a besoin de ça. Le clown est un merveilleux outil pour travailler sur l'humain, pour comprendre, pour se comprendre, pour se connaître, pour s'aimer, et aimer les autres. Enfin, magnifique. Moi, vraiment, superbe. Si je n'aimais pas autant l'action, je serais écrivain, je pense, parce que j'adore la pensée, j'adore l'agencement des mots. Je suis absolument fou du style d'un écrivain. Enfin, je veux dire, l'agencement des mots, c'est fou, c'est dingue. Chaque mot est une île, mais qui se met tout d'un coup à tendre la main à une autre île. Et tout d'un coup, nous, acteurs, avec nos voix, on est le moyen de transport d'une île à l'autre. Il y a des grands interprètes qui, tout d'un coup, nous fait comprendre qu'un mot, c'est un corps qui tient la main à un autre corps. Mais que ce corps, il n'est pas fondu dans une phrase. Il a vraiment sa puissance intrinsèque. C'est magnifique. La puissance des mots, c'est comme un puits dans un nuage. D'un coup, un mot, c'est un nuage, mais il y a la pensée profonde, qui nous tire vers le fond. Victor Hugo qui disait que la forme, c'était du fond qui remontait à la surface. C'est sublime. Moi, j'ai de la pensée dans chaque choix de geste. J'ai une pensée qui ramène, en fait, aux gens, à leurs conditions de spectateurs et aussi de citoyens. Donc je parle aussi d'une manière silencieuse, mais avec de la pensée.
Qu'est-ce qu'il est bavard, le mime, en fait, quand on lui donne... On parlait des corps qui apparaissent comme ça dans nos vies, où on imagine qui peut y avoir derrière ou pas. C'est vrai que Olivier Adam, à l'origine de la chanson La ville silencieuse, votre roman, vous êtes fait un petit trip,
une rêverie
à Lisbonne. Vous avez croisé un type qui ressemblait étrangement à Nino Ferrer. Racontez-nous cette histoire.
Oui, on dînait régulièrement dans un petit restaurant argentin. En surplomb du Barrio Alto, avec ma compagne, ma fille, mon fils et des amis. On a tous en commun d'être bercés par Nino Ferrer, qu'on mettait toujours dans la voiture en Bretagne pour nos trajets. Voilà. Donc c'est multigénérationnel, amical, etc., interamical. Plusieurs soirs de suite est arrivé un type, un chanteur des rues, vêtu comme un prince, Santiago, pantalon serré, chemise de soie, veste de velours, foulard, chapeau, et qui avait l'allure vieillie, mais d'une magnifique Nino Ferrer des grandes années, quoi. C'est un visage incroyable, les yeux clairs, l'espèce d'un nez d'aigle, et il chantait des bossas. On pensait tout de suite à la fameuse chanson La Rue Amadurala de Nino, et puis il y avait cette voix un peu rocailleuse comme ça, et il partait sans demander d'argent, il chantait pour les gens. Et puis c'est né comme ça avec ma fille.
Ça se trouve,
Nino Ferrer, voilà, juste comme un truc potache.
Il n'est pas mort et il s'est réinventé ailleurs.
Voilà, alors je n'y ai pas cru une seconde, mais je me suis dit voilà, ça commence, la rêverie a commencé comme ça.
Voilà une scène qui pourrait être mimée d'ailleurs, Julien Cottreau, une anecdote comme ça, une histoire, une rencontre avec un personnage. Je ne sais pas si tout se mime d'ailleurs.
Oh, tout peut se mimer, hein, je pense. Les fantômes aussi, puisque moi je travaille avec le vide.
Ouais.
Je fais voir des choses par l'imaginaire. Mmh. Ce qui est incroyable, les gens sont piégés, ils rigolent par choc. En fait, ils sont choqués.
C'est vrai.
Ils rigolent par choc parce qu'ils voient les choses que je leur fais voir.
Et pourtant, c'est invisible.
C'est ça. Je suis aidé par les sons quand même. Hein.
Il y en a des sons. Hein. Ouais. Eh bien, il y en a des fantômes ce soir.
Dans tes rêves.
Dites-moi ce que vous voulez. Vous voulez la lune, peut-être. Vous n'avez qu'à la demander. Je l'attraperai au lasso et je vous la descendrai. C'est une magnifique idée. Je vais vous donner la lune, Madeleine.
Quand je l'aurai, qu'est-ce que j'en ferai ?
Laurence Garcia.
Et toujours en compagnie ce soir de l'écrivain Olivier Adam et de l'acteur Julien Cottreau. Messieurs, il est bientôt minuit. Eh oui, c'est l'heure de notre dernière séquence imaginaire. Et comme à chacun de nos invités, je vais vous demander, pour de vrai, de fermer les yeux. Allez hop, fermez les yeux. Le micro est devant vous. Vous me répondez les yeux fermés. Je commence par vous, Olivier Adam. Si vous pouviez justement croiser ce petit gamin là qui se sentait invisible, qui se sentait flou sur ses photos de famille, avec du recul, qu'est-ce que vous lui diriez à ce môme-là, l'adulte? Qu'est-ce qu'il lui dirait?
Alors moi, je lui dirais de n'écouter personne et de se laisser aller à sa pente naturelle, qui est de se réfugier dans l'expression artistique, quoi, dans la musique. Dans les mots, et j'essaierai d'être un accélérateur pour lui.
Ah, pour qu'il aille un peu plus vite.
Oui, ou qui se sente moins perdu et qui sache que je lui montrerai la voie, quoi, tout simplement. Je dirais voilà, la voie est là, c'est la bonne. Et puis aussi, je lui dirais forcément, de loin, le monde artistique, la littérature, tout ça, ça semble un monde d'entre-soi, un monde d'héritiers, un monde de gens. Déjà là avant d'y être, quoi. Et je dirais, on va t'expliquer partout que justement, c'est pas pour nous, comme on dit. Si tu fais ce que tu as à faire, si tu écris des chansons, des livres, que sais-je, et que tu travailles, il y aura aucune barrière qui pourra t'empêcher.
C'est aussi pour nous et pas seulement toujours au même.
Oui.
Les yeux fermés, Julien Cottereau, il a les mains dans les, le visage dans les mains. Bah pareil, vous pouvez croiser ce môme à la bouille de clown qui dansait drôle, qui regardait ses grands-parents, voilà, travailler dans l'antre de leur charcuterie. Qu'est-ce que vous lui dites avec du recul à ce gamin?
Je lui dis merci d'abord d'avoir bâti un pont sur lequel on est tous les deux. Je le serre très fort, je lui fais un câlin et d'un côté il y a une rive qui s'appelle les rêves, justement, l'autre rive, c'est la réalité, le quotidien. Et en dessous, il y a un torrent qui amène les heures vers les souvenirs, un océan de souvenirs. Et au fond, un océan de souvenirs qui est fait de petites pièces de puzzle. Et je lui dis, regarde, le puzzle n'est pas fini, mais il y a déjà une belle lumière. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir bâti déjà ça en filigrane. Et je suis là, moi, ton capitaine, le capitaine de tes rêves et aussi la force que t'as de pas avoir sombré, d'avoir toujours cru en ce pont là dans lequel on tient tous les deux et je lui ferai un grand câlin, vraiment.
C'est bien parce que l'un est capitaine de son enfant intérieur qui est toujours là et l'autre, bah, quelque part aussi vous êtes le guide en lui disant vas-y fonce, quoi. Comme quoi on a besoin aussi de guide intérieur grave.
Non, mais je pense qu'on a l'impression de s'être construit un peu pas tout seul, parce qu'il y avait des gens, mais en marge des préoccupations des autres, on peut pas s'empêcher de dire qu'on aurait bien aimé avoir
un peu plus
d'accompagnement, mais on est arrivé quand même.
Mais tout est toujours possible, comme quoi. Merci beaucoup en tout cas, messieurs, d'avoir joué le jeu, de vous raconter à travers l'autre. Je suis ravie de vous avoir fait rencontrer pour
merci
de vrai.
Beaucoup.
Chacun ira voir l'autre ou lira l'autre. Julien Cottereau, Imagine-toi, c'est actuellement au Théâtre des Mathurins à Paris. Et La chanson de la ville silencieuse avec plein de fantômes, c'est le dernier roman chez Flammarion d'Olivier Adam. Merci, messieurs.
Merci beaucoup.
À très bientôt, beaux rêves et belle nuit. Dimanche prochain, nouvelle rêve partie avec cette fois-ci l'écrivain, auteur de Polar, Jean-Bernard Pouy, et le pianiste-poète Jacques Perry Salco. Et bien sûr, oser rêver, l'imaginaire est notre plus grande liberté et personne ne peut nous l'enlever.